Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quand on fait de la radio, d'habitude on fait pas ça en marchant. La première, c'est que on sonne toujours un peu essoufflé, puis ça fait pas de la très bonne radio. La deuxième, c'est que c'est difficile de se concentrer en parlant dans un micro en marchant. Il y a aussi que des fois il y a de la glace, comme là. Donc voilà, vous écoutez dans le champ lexical. Aujourd'hui, on parle de marche. Mais on va probablement commencer par rentrer en studio, s'asseoir, puis parler bien tranquille, assis, dans le micro. Fait que j'ai écouté dans le champ lexical, puis aujourd'hui, on parle de marche. Bonjour et bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on choisit un mot et on tourne, à pied évidemment, autour de ce mot-là en vous présentant des entrevues, des reportages et des capsules. Et cette semaine, on vous l'a déjà dit, le mot, c'est marche.
La marche à pied existe chez l'homme, bien sûr, depuis qu'il s'assume en tant que bipède. Elle fut utilisée de façon plus ou moins adroite il y a à peu près de ça 2 millions d'années. Enfin, les humains pouvaient faire autre chose que juste se déplacer en marchant, en libérant leurs membres supérieurs, ainsi disponibles pour manipuler outils, nourriture, armes et plus tard iPad. Dès les débuts, la marche à pied n'est plus qu'un simple déplacement. Elle devient aussi un moyen par lequel l'homme projette son action. Elle l'accompagne donc dans l'évolution de son espèce en créant de meilleures conditions, moins restreignantes, pour le développement de ses facultés mentales. Mais ne nous flattons pas trop tôt la bédaine, parce que l'homme n'est pas le premier animal à avoir inventé la marche à pied. Le premier animal à avoir pu se déplacer en tant qu'être redressé sur ses deux pattes arrière fut vraisemblablement l'Euparkeria, un dinosaure qui a comme un peu devancé notre innovation de 233 millions d'années. La plupart des oiseaux aussi sont assez doués dans la marche. La marche a été longtemps le seul moyen pour l'homme de se déplacer, avec la course bien sûr. Même avec l'invention de la roue, les légions romaines se déplaçaient à pied. Et au Moyen Âge, évidemment, il fallait pas mal de bidoux pour se procurer une monture. L'invention de l'automobile, quelques années après le Paléolithique, c'est-à-dire au 20e siècle, sonne le glas de la relation qu'entretenait l'homme avec la marche et la marginalise, surtout dans les pays industrialisés, bien sûr. Aujourd'hui, la marche, c'est plutôt une promenade ou une flânerie ou un sport. Mais pour certains Afghans, c'est aussi la marche afghane qu'ils pratiquent sur leur plus haut plateau. Elle permet aux chameliers afghans de parcourir 700 km en 12 jours, soit 60 km par jour. La technique de marche met l'accent sur la synchronisation de la respiration avec le rythme des pas et une allure de marche plus rapide. Voici la marche à suivre en 4 étapes faciles. Étape numéro 1, inspiration sur 3 pas. Étape numéro 2, maintien des poumons pleins sur le 4e pas. Étape numéro 3, expiration sur 3 pas. Et étape numéro 4, maintien des poumons vides sur le dernier pas. Recommencez au besoin. Et comme vous devez marcher 60 km, vous en avez besoin. En pratiquant ce cycle, vous devriez être capable de marcher jusqu'à Québec, de vous rendre compte que vous avez oublié votre brosse à dents à Montréal, de revenir à pied et de retourner à Québec, toujours à la marche, et ce, seulement en 12 jours. Cha-cha-cha! As I walk around feeling really good about everything from my health to my hood, I realize that I'm blessed with a lot. So all I gotta say is work with what you got. They said my voice really wasn't made for rapping. Straight out the deep home, it would never happen. As a teenager, I had my first child, and in all my photos, you never seen a smile. But now I'm the best that ever did it, the greatest female rapper, and they all must admit it. To all the haters, I say thanks a lot, 'cause life can turn out really good if you work with what you got.
I know it's hard, but it takes some work to be
working with what you got.
If you got nothing, or even if you got it all,
working with what you got.
I know it's hard, but it takes some work to be
working with what you got.
If you got nothing, or even if you got it all,
working with what you got.
If you have an idea, just think it. If you have one eye, just blink it. If you have a drop of rum, just drink it. Working with what you got. If you got one leg, just shake it. If you don't want to smile, then fake it. If you got one potato, bake it. You gotta work it until you can't work it no more. You gotta work it until you know the score. You gotta work it until you can't work it no more.
Let me hear you sing.
I know it's hard, but it takes some work to be
working with what you got.
If you got nothing, or even if you got it all,
working with what you got.
Working with what you got, oh baby. If you got nothing or even if you got it all,
working with what you got.
Anytime you see life shows you a curve, and you're deep in your heart, you don't deserve. You may be ticking and licking, but keep on ticking. That's the way it's going to keep doing nothing.
Cause life can turn out good if you work with what you got.
I know it's hard, but it takes some work to be
working with what you got.
If you got nothing or even if you got it all,
mon nom c'est Colin Brosseau. J'ai fait le sentier des Appalaches en 2010. Je suis parti du Maine, le nord du Maine, un parc qui s'appelle le parc Baxter. Dans le parc Baxter, il y a le mont Katahdin. Le sentier des Appalaches part de là et suit en fait la chaîne de montagnes des Appalaches jusqu'en Géorgie. C'est un sentier qui fait 3500 km.
Tu as marché tout ça?
Oui, j'ai marché tout ça. Je suis un peu ce qu'on appelle un puriste, donc j'ai pas manqué un seul kilomètre de ce sentier-là.
Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça? Pourquoi t'es parti?
En fait, je connais ce sentier-là depuis à peu près 10 ans. Je suis allé pendant une semaine, comme vacances d'été avec ma famille. Et puis, c'était l'inconnu quand on est allé là. On n'avait aucune idée de ce que c'était. Puis, on est rentré dans le sentier. Mal équipé, pas d'expérience, rien. Puis, j'ai vu la forêt sauvage, tout propre. Puis là, depuis ce temps-là, à cet instant-là, j'ai réalisé que c'était un peu comme revenir dans le temps, revenir un peu, entre guillemets, comme coureur des bois. Pas fuir la société, mais vivre autrement. Puis depuis ce temps-là, j'ai rêvé pendant presque 10 ans d'y aller. Finalement, quand j'ai fini par y aller 8 ans plus tard, c'était plutôt par trouver autre chose en moi, si on veut, que je ne réussissais pas à trouver dans la vie moderne, si on veut. Dans ce sentier-là, qui existe depuis, 75 ans, il y a des refuges qu'on appelle des lean-to. C'est des petits appentis, 3 murs, un toit. On peut dormir là-dedans. C'est libre-service, si on veut. Mais on peut aussi dormir à peu près n'importe où. En fait, n'importe où, c'est permis parce que c'est un parc linéaire qui n'est pas très large, mais qui fait 3500 km de long. Donc, j'ai dormi plusieurs fois à la Belle Étoile, mais même le sol, comme tu dis, et ben ça fait partie de l'expérience aussi. Je dirais que la nourriture, c'est au moins 50% de la masse qui est dans le sac à dos parce qu'on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dépense peut-être 3 fois plus d'énergie que dans une vie ordinaire de tous les jours. En fait, je me suis jamais fatigué, je me suis jamais blessé parce que j'étais à l'écoute de mon corps, en fait. J'ai commencé très lentement. pendant le premier mois, j'ai marché peut-être le sixième de la marche, j'ai marché peut-être à la demi-vitesse du reste, dans le fond. J'ai vraiment laissé le temps à mon corps de s'adapter. Puis ensuite, dès que je voyais que j'étais fatigué, parce que tout, c'est facile d'observer son corps quand on est dans la forêt, parce qu'on a absolument juste ça. Tous les autres sens sont il n'y a pas de stimulation.
Est-ce qu'à un moment donné, la solitude, ça venait lourd?
Personnellement, j'aurais envie de dire non, mais oui en même temps. La solitude, non. Sauf que il n'y a pas de télé, il n'y a pas de nouvelles, j'avais pas de livre à lire, j'avais aucune stimulation intellectuelle. Ça a fini par être difficile à un moment donné. Puis j'étais tout seul aussi. J'étais tout seul dans le sens que les gens vont pas normalement. La plupart des gens font le parcours du sud vers le nord. Ils partent au mois de mars. Puis ils partent, c'est beaucoup de monde, c'est comme 50 personnes par jour, au départ d'au moins. Fait qu'il y a vraiment une vague qui monte vers le nord. Puis ça, c'est 90% des gens qui font ça. Les gens qui vont vers le sud sont vraiment, c'est vraiment des, à moins de vouloir rencontrer des gens, c'est vraiment des gens qui marchent tout seuls. Oui, je m'ennuyais à un moment donné, pas nécessairement de solitude, de manque de stimulation. Mais en fait, ça a duré quelques semaines comme ça, puis je me suis rendu compte après que j'avais gagné quelque chose dans cette épreuve-là, si on veut. C'est que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de créativité. J'aurais pu probablement écrire des romans, des poèmes, résoudre des problèmes que j'ai envie de tous les jours. Vraiment facilement, j'avais de l'inspiration sur plein de projets, c'était incroyable. J'aurais jamais la chance de retrouver ça autrement.
Tu dis que tu n'auras jamais la chance. Est-ce que tu referais l'expérience?
Oui, probablement. En fait, quand je suis arrivé à l'autre bout, j'étais vraiment content d'arriver. Mais en même temps, je me disais, c'est déjà fini. Là, je suis super entraîné. J'aimerais ça continuer. En fait, si j'avais pu, j'aurais juste comme fait un 180 degrés puis je serais revenu sur mes pas jusque dans le Maine. Puis probablement jusqu'à Montréal à partir du Maine.
Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu t'es arrêté et t'as fait « c'est pour ça que je l'ai fait »?
Il y a beaucoup de moments comme ça. Il y a beaucoup de moments comme ça. Je vais en nommer juste un. Dans le New Hampshire, il y a les montagnes blanches et il y a un petit sommet sur lequel j'ai dormi à peu près à 100 mètres du sommet, dans un boisé. Le matin, je me suis réveillé par la lueur du jour, comme d'habitude. J'ai fait 100 mètres, je suis allé au sommet, j'ai pris mon déjeuner. Puis j'ai vu le soleil se lever en dessous des nuages, puis avec le brouillard dans la vallée. Wow! Incroyable!
La marche est au marcheur, ce que quadruporteur est au quadruporté.
Ben, la plupart des gens utilisent des quadriporteurs parce que c'est plus stable. Le triporteur, c'est plus dangereux de verser. Là. Donc, la plupart du temps, c'est les quadriporteurs que les gens utilisent.
C'est que quand on a le droit à un quadriporteur à cause de notre état de santé ou un problème de mobilité physique, la RAMQ paie pour le quadriporteur à ce moment-là.
Ben, moi, je viens de loin. Je pesais 500 livres il y a 2 ans.
500 livres?
Attaché l'estomac, puis l'hôpital me laissait un petit cadeau. Une petite bactérie mangeuse de chair.
à cause de l'arthrose et puis d'autres problèmes de santé. Alors, c'est à cause de ça que j'ai un quadriporteur.
Mais ça, c'est pas mon régulier. Il est en réparation. Moi, j'ai un gros. Il roule à 18 000 à l'heure. Lui, il roule à 4 000 à l'heure.
Avant, ils allaient plus rapidement. Maintenant, c'est moins. Il y a une limitation de vitesse maintenant qui est de 10 km/h, je pense, si ma mémoire est bonne.
Ça va le maximum 12 km/h.
C'est sûr que des fois, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus vite, mais je peux pas. Malheureusement, je dois respecter les limites. Là.
L'autonomie, c'est environ 6 heures, 6 à 8 heures d'autonomie.
Je peux faire des longues distances. Moi, ce que j'ai ici, je peux m'en servir pendant 4 heures ou 40 km.
Donc, 40 ou 40?
Oui, 40. Alors, moi, je l'utilise.
Oui, ça charge sur le 110, puis ça prend 8 heures environ de le recharger. On charge le soir quand on arrive, toute la nuit, puis le lendemain matin, ben, il est prêt à partir.
Oui, parce que moi, je revis là, depuis 2 ans, là, comme je disais à ma femme. Regarde, moi, j'évite de faire des grosses affaires. Des fois, je te l'autre ça bien gros. L'autre est plus gros, j'ai un gros peignon en arrière. C'est une commodité, c'est une nécessité. Je suis capable de marcher, mettons, partir de plus rien. Aller à Pinache, je peux marcher, mais je ne suis pas capable de m'en revenir.
Puis il y en a d'autres qui, bon, sont un peu lâches, qui, dans le fond, ne devraient pas en avoir, mais qui s'en agitent.
Oui, il y en a en vente libre, mais tu as une affaire de 5 000, de 6 000 $. C'est pas donné à tout le monde.
Ceux qui n'ont vraiment pas de besoin, qui se promènent avec tout pour le plaisir. Ouais.
Ah, ben oui.
Ben là, tu embarques là-dedans, tu deviens paresseux, c'est sûr. Oui.
Ça dépend. Il y a des gens, oui, qui ont des problèmes réels, effectivement. Puis il y a d'autres gens qui ont plus de difficultés à faire de longues distances, donc ils vont l'utiliser pour se rendre dans le Vieux-Montréal, par exemple.
Je peux aller à la ville de la Salle avec. C'est 25 km. Je fais 60 km avec. Je peux monter au parc de la Vérandrie, le parc de la Visitation, pour revenir chez nous. Là, pas l'hiver, parce que les batteries souffrent un peu, là.
Oui, on a des pneus d'hiver, des pneus d'été. Là, je serais dû pour les changer parce que j'ai pas fait faire mon changement de pneus encore.
Non, il n'y a pas de pneus d'hiver, mais il y en a peu, en fait, qui l'utilisent. C'est ceux qui n'ont vraiment pas le choix. Quand il fait beau et les trottoirs sont dégagés à ce moment-là.
Normalement, c'est sur les trottoirs. Il faut toujours respecter, évidemment, le piéton. Qui roule est en train de passer des règlements pour qu'on puisse passer de façon permanente sur les pistes cyclables.
Il y a 2 ans, il y en avait 3-4. Après, on est rendu au moins 100 ans. On va faire un défilé l'année prochaine d'une vente. C'est la vente trottoir. Il y a quelqu'un qui prépare ça.
Probablement qu'à long terme, l'utilisation d'une personne qui est capable de marcher puis qui s'empêche de marcher en utilisant ça, c'est sûr que ça va y venir à long terme.
Je sais, mon beau-frère, lui, a pris la chaise roulante de sa femme. À un moment donné, il était capable de la lâcher. Non, ben c'est belle à décéder, puis lui, il a vécu une dizaine d'années après elle, puis finalement, il était plus capable de débarquer de la chaise.
Et quand il l'a pris, il avait de la difficulté à marcher?
Il y avait un petit peu, mais pas tant que ça. Il était capable de marcher. Ah. Ben, pour pas, tu sais, là, traîner à patte, ben, il a pris la chaise. Ben, oui, c'est ça.
Chers soucieux de véracité et de témoignages historiques, les modèles ne manquent pas. Et deux textes tout particulièrement s'imposent à lui. Le premier de ces textes, c'est « Les rêveries du promeneur solitaire de ce bon vieux Jean-Jacques ». Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, qui, après avoir écrit ses confessions, décida, en 10 promenades, de noter toutes les idées qui lui viennent tout en marchant. Or, à la lecture, mais Jean-Jacques, il marche pas tant que ça. Ah, il a ses excuses. Dès la deuxième promenade, un accident lui advint. Ayant donc formé le projet de décrire l'état habituel de mon âme dans la plus étrange position où se puisse jamais trouver un mortel, je n'ai vu nulle manière plus simple et plus sûre d'exécuter cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent quand je laisse ma tête entièrement libre et mes idées suivent leur pente sans résistance et sans gêne. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. J'éprouvais bien cet effet dans les promenades qui suivirent le projet d'écrire la suite de mes confessions, surtout dans celle dont je vais parler, et dans laquelle un accident imprévu vint rompre le fil de mes idées et leur donner, pour quelque temps, un autre cours. Le jeudi 24 octobre 1776, je suivis après dîner les boulevards jusqu'à la rue du Chemin Vert par laquelle je gagnais les hauteurs de Ménilmontant, et de là, prenant les sentiers à travers les vignes et les prairies, je traversai jusqu'à Charonne le riant paysage qui sépare ces deux villages, puis je fis un détour pour revenir par les mêmes prairies en prenant un autre chemin. Je m'amusai à les parcourir avec ce plaisir et cet intérêt que m'ont toujours donné les sites agréables, et m'arrêtant quelquefois à fixer des plantes dans la verdure. J'en aperçus deux que je voyais assez rarement autour de Paris et que je trouvais très abondantes dans ce canton-là. L'une est le Picris hieracioïde.
Bon, c'est un peu long ici, alors on accélère et je vous résume. Jean-Jacques trouve quelques plantes, s'en émerveille, continue à marcher en trouvant que tout ce qui lui passe par la tête est vraiment intéressant, quand soudain, bing, badabang, il se fait renverser.
Il était presque nuit quand je repris connaissance. Je me trouvais entre les bras de 3 ou 4 jeunes gens qui me racontèrent ce qui venait de m'arriver. Le chien danois, n'ayant pu retenir son élan, s'était précipité sur mes deux jambes et, me choquant de sa masse et de sa vitesse, m'avait fait tomber la tête en avant. La mâchoire supérieure, portant tout le poids de mon corps, avait frappé sur un pavé très raboteux, et la chute avait été d'autant plus violente qu'étant à la descente, ma tête avait donné plus bas que mes pieds. Le carrosse auquel appartenait le chien suivait immédiatement et m'aurait passé sur le corps si le cocher n'eût à l'instant retenu ses chevaux. Eh bien voilà, il veut faire une promenade et il se fait renverser par un chien. Pauvre Jean-Jacques, pendant au moins une autre ou deux de ses rêveries, en fait il ne peut plus marcher, il est au lit. À la 9e rêverie, revoilà Jean-Jacques sur pied et de retour aux alentours de Genève. Voici la promenade qu'il y fait. Je gravis les rochers, les montagnes, je m'enfonce dans les vallons, dans les bois, pour me dérober, autant qu'il est possible, aux souvenirs des hommes et aux atteintes des méchants. Il me semble que, sous les ombrages d'une forêt, je suis oublié, libre et paisible, comme si je n'avais plus d'ennemis, ou que le feuillage des bois dut me garantir de leurs atteintes, comme il les éloigne de mon souvenir, et je m'imagine, dans ma bêtise, que ne pensant point à eux, ils ne penseront point à moi. Je trouve une si grande douceur dans cette illusion, que je m'y livrerais tout entier si ma situation, ma faiblesse et mes besoins me le permettaient. Plus la solitude où je vis alors est profonde, plus il faut que quelque objet en remplisse le vide, et ceux que mon imagination me refuse ou que ma mémoire repousse sont suppléés par les productions spontanées que la terre, non forcée par les hommes, offre à mes yeux de toutes parts. Le plaisir d'aller dans un désert chercher de nouvelles plantes couvre celui d'échapper à mes persécuteurs. Et parvenu dans des lieux où je ne vois nulle trace d'homme, je respire plus à mon aise, comme dans un asile où leur haine ne me poursuit plus. Je me rappellerai toute ma vie une herborisation que je fis un jour du côté de la Robella, montagne du justicier clair. J'étais seul. Je m'enfonçai dans les infractuosités de la montagne, et de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je n'avais vu de ma vie un aspect plus sauvage, de noirs sapins, entremêlés de hêtres prodigieux, dont plusieurs tombés de vieillesse et entrelacés, les uns dans les autres, fermaient ce réduit de barrières impénétrables. Le duc, la chevêche et leurs frais faisaient entendre leurs cris dans les fentes de la montagne, Quelques petits oiseaux rares mais familiers tempéraient cependant l'odeur de cette solitude. Là, je trouvais la dentaire Heptaphyllos, le cyclamen, le Nidus avis et quelques autres plantes qui me charmèrent et m'amusèrent longtemps, mais insensiblement, dominé par la forte impression des objets, j'oubliais la botanique et les plantes, je m'assis sur des oreillers de lycopodium et de mousse, et je me mis à rêver plus à mon aise, en pensant que j'étais là dans un refuge ignoré de tout l'univers, où les persécuteurs ne me déterreraient pas. Un mouvement d'orgueil se mêla bientôt à cette rêverie. Je me comparais à ces grands voyageurs qui découvrent une île déserte, et je me disais, avec complaisance, « Sans doute, je suis le premier mortel qui ait pénétré jusqu'ici. » Je me regardais presque comme un autre colon. Tandis que je me pavanais dans cette idée, j'entendis, un peu loin de moi, un certain cliquetis que je crus reconnaître. J'écoute. Le même bruit se répète et se multiplie. Surpris, curieux, je me lève, je perce à travers un fourré de broussailles du côté d'où venait le bruit, et dans une combe, à 20 pas du lieu même où je croyais être parvenu le premier, j'aperçus une manufacture. Je ne saurais exprimer l'agitation confuse et contradictoire que je sentis dans mon cœur à cette découverte. Mon premier mouvement fut un sentiment de joie de me retrouver parmi des humains où je m'étais cru totalement seul, mais ce mouvement, plus rapide que l'éclair, fit bientôt place à un sentiment douloureux, plus durable, comme ne pouvant, dans les antres mêmes des Alpes, échapper aux cruelles mains des hommes acharnés à me tourmenter.
Cette semaine, Sonny Duval marche. Tu marches dans la pluie, marches sur la glace, marches dans la neige, tu marches, tu tombes. Tu tombes. Facteur, tu tombes chaque fois que tu marches sur nos marches. Tu te plains putain, tu as mal partout, tu aimerais tellement qu'on pose des petits morceaux de caoutchouc. Souris marche, tu as peur tout le temps de tomber dans nos marches. Et tu tombes, facteur, tu tombes. Tu tombes chaque fois que tu marches sur nos marches. Tu tombes, tu tombes. Tu tombes chaque fois que tu marches sur nos marches.
En ce grand jour du tiers de l'année, quand la lune et le soleil se retrouvent au mi-temps du jour, notre peuple de nageurs se lève et se met à marcher.
Notre peuple est partagé depuis toujours. D'un côté l'océan qui peut nous nourrir.
De l'autre, par-delà la plaine immense, par-delà l'océan couvert de glace, un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous d'amour.
Désormais debout, nous retrouvons notre pas de nomade. Nous marchons un jour, deux jours, 10 jours, 20 jours. Autant de nuits, autant de froid. Voici le temps de la première marche. La marche des longues caravanes.
On vient d'entendre un extrait de La Marche de l'Empereur, un film qui raconte le long trajet qu'effectuent les manchots empereurs chaque année dans l'Arctique. C'est un film aux images somptueuses, mais à la narration insupportable qui, au lieu de nous donner de l'information, préfère lancer de grands moments de vacuité poétique, comme...
Au-dessus de nos têtes brillent les sentiers du ciel. Le soleil et les étoiles y ont tracé des cartes éternelles. Sous nos pattes, le cœur de la Terre fredonne depuis toujours ses plus beaux champs magnétiques.
Ainsi que des niaiseries, telles que...
Les grands n'arrêtent pas d'aller et venir. Ils ont deux faces. La blanche, c'est la bonne. C'est les ventres pleins qui reviennent. La noire, c'est moins bon. C'est les ventres vides qui s'en vont. Nous, c'est pas pareil. De dos comme de face, on est gris. Ça veut dire qu'on a toujours faim.
C'est pas compliqué. Ça donne le goût de militer pour le réchauffement de la planète.
Ding 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 ding.
L'autre grande figure historique pour le marcheur, c'est Henry David Thoreau. Cet Américain est le chantre du retour à la nature, des nuits passées sous les cimes des arbres, dans des forêts glaciales, où on peut enfin retrouver son essence profonde et primaire. Il a pondu un petit opuscule qui s'intitule, très justement, « De la marche ». Mais la marche dont je parle n'est en rien apparentée à l'exercice physique, comme on dit. Tout comme un malade prend des médicaments à heure régulière, ou bien, comme d'autres, soulève des haltères ou des chaises. Mais elle est en soi l'entreprise et l'aventure de la journée. Qui plus est, il vous faut marcher comme un chameau, dont on dit qu'il est le seul animal qui rumine en marchant. Quand nous marchons, nous allons naturellement dans les champs et les bois. Qu'adviendrait-il de nous si nous ne marchions que dans un jardin ou une rue? Certaines sectes de philosophes ont même senti la nécessité d'amener la forêt à eux, puisqu'ils ne s'y rendaient jamais. Ils plantèrent des bocages et des allées de platanes, où ils s'adonnaient à des subdiales ambulutiones, sous des portiques au plein air. Bien sûr, il ne nous sert à rien de diriger nos pas vers les bois s'ils ne nous y portent pas. Je suis inquiet quand, après avoir parcouru physiquement 1 mille dans le bois, je ne m'y trouve pas en esprit. Dans ma promenade de l'après-midi, j'oublie bien volontiers mes occupations de la matinée et mes obligations vis-à-vis de la société. Mais il arrive parfois que je ne puisse me défaire aisément de la ville. La pensée de quelque travail occupera mon esprit et je ne suis pas où se trouve mon corps. Je suis à l'extérieur de mes sens. Au cours de mes balades, je retourne bien volontiers à mes sens. Qu'ai-je à faire dans les bois si je pense à quelque chose qui se trouve hors d'eux? Je me considère avec suspicion et ne puis m'empêcher de frissonner quand je me surprends à être complètement imbriqué dans ce que nous appelons de bonnes œuvres, car cela peut parfois m'arriver. Mes alentours offrent fort belles balades, et bien que j'ai marché presque chaque jour depuis tant d'années et parfois plusieurs jours d'affilée, je ne les ai pas encore tout épuisées. Une perspective absolument neuve est un grand bonheur et je puis encore en dénicher n'importe quel jour. 2 ou 3 heures de marche m'entraîneront dans une contrée étrange dont je ne me serais pas attendu à voir. Une ferme isolée que je n'avais pas vue auparavant a parfois autant de valeur à mes yeux que les territoires du roi du Dahomey. Il y a en fait une sorte d'harmonie qui se peut découvrir entre les possibilités du paysage à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 000, en d'autres termes les limites d'un après-midi de marche et les quelques 70 années d'une existence humaine. Cela vous deviendra jamais chose familière. De nos jours, presque tous les prétendus progrès de l'homme, tels que la construction de maisons, l'abattage des forêts, des grands arbres, déforment tout simplement le paysage et le rendent de plus en plus insipide et domestiqué. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisserait croître les forêts. J'ai vu des clôtures à moitié consumées, leurs extrémités perdues en plein milieu de la prairie, et un avare matérialiste accompagné d'un géomètre veillé sur les bornes de son domaine. Les cieux s'étaient déployés autour de lui, mais il ne voyait pas les anges aller de ci de là, et il cherchait l'emplacement d'un vieux poteau en plein milieu du paradis. Je peux sans difficulté marcher 10, 15, 20 000 ou plus en partant de chez moi, sans passer devant la moindre maison, sans croiser de chemin, sinon ceux qu'empruntent le renard et le vison. D'abord le long de la rivière, puis du ruisseau, et ensuite par la prairie et les bois. Il y a des étendues de plusieurs 1000 carrés dans les alentours qui sont totalement inhabitées. Depuis nombre de collines, je puis voir au loin la civilisation et les demeures des hommes. Les fermiers et leurs travaux sont à peine plus discernables que les marmottes et leurs terriers. We'll be right back.
Un mille à pied, ça use les souliers et les oreilles à la longue. Alors, si vous en avez marre de rythmer vos pas avec ce classique de la chanson de marche, sachez qu'il existe de nombreuses autres chansons mettant en vedette ce moyen de locomotion. Pour Vincent Vallière, une marche n'a pas à avoir de but précis. Dans « Je pars à pied », il s'en va, pas pressé, en saluant le voisin, en appartenant à personne, et au fond, il n'a pas besoin de grand-chose, sauf de penser un peu à sa blonde et de profiter de l'air doux.
Passé midi, je sors des vapes. Je pars à pied, je m'échappe. Y a de la musique qui joue partout. Ouf, les châssis passent clair et douce comme un bombe sur la solitude. Faudrait bien en prendre l'habitude.
Il arrive aussi que l'on demande à quelqu'un d'aller marcher à l'ombre. Autrement dit, on l'incite à se faire petit, à raser les murs, à disparaître de notre vue. « Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre » est la consigne que donne Renaud à tous les types qui entrent dans son bar favori et qu'il juge indigne de s'y présenter car leur style ou leur tête lui déplaît.
C'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots. Tu dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre, casse-toi tu pues.
La marche en solitaire est le lot de la personne qui, pour une raison ou une autre, se retrouve à l'écart de la société ou loin des siens. Elle poursuit donc son voyage sur des chemins pavés de chagrin, comme ceux chantés par Richard Séguin, ou bien sans foi ni loi, comme cet homme déchu dans la chanson « Marche seul » de Vilain Pingouin.
Ils ont dit « Regarde, c'est des et c'est des mais ça, c'était d'hier. Tu sais, avec un peu de confiance, on te les a prises avec aisance. Oh, je marche seul. Oh, je marche seul. Oh, je marche seul. Oh, je marche seul. Oh, je marche seul.
À l'inverse de Lou Reed, qui choisit d'aller prendre une marche « on the wild side », on s'attend d'un homme respectable qu'il marche droit, évitant les écarts de comportement, demeurant à l'intérieur des sentiers battus. Dans la chanson « Walk the Line », Johnny Cash explique à sa femme que par amour pour elle, il fait tout ce qu'il faut pour rester dans le droit chemin.
« I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
L'homme qui ne tient pas sa promesse de marcher droit et qui trompe sa compagne risque de passer un mauvais quart d'heure. Dans la chanson « These boots are made for walking », Nancy Sinatra prévient cet amant perfide qu'elle se vengera en lui passant dessus avec ses belles bottes. Cette chanson a aussi une version française, « Ses bottes sont faites pour marcher », interprétée entre autres par Dominique Michel en 1966.
Quand tu me dis que tu n'as pas d'autres yeux, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Quitter. jour viendra où tu vas te brûler. Ouais, un autre a pris ta place et moi je l'aime. Ouais, qui est-il? Tu ne le sauras jamais. Tes bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai tes bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
D'ailleurs, êtes-vous plus marche ou ascenseur?
Plus marche dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Je suis pas un sportif, donc je prends tous les prétextes que je peux pour faire de l'exercice et c'est de joindre l'utile à l'agréable. André Bourassa, je suis président de l'Ordre des architectes du Québec.
Vous êtes architecte depuis combien de temps?
Depuis une trentaine d'années.
Donc, vous en avez vu des escaliers et des marches?
Beaucoup.
Est-ce qu'il y a un règlement sur la dimension que doit avoir une marche pour être acceptable ou agréable?
Bien, on distingue deux usages de marches, c'est-à-dire les marches qui sont dans des escaliers d'issue au sens du code du bâtiment, du code de construction du Québec. Donc, ces marches ont des hauteurs qui sont beaucoup moins élevées qu'auparavant et des profondeurs, qui sont plus profondes que ce qu'on avait avant aussi. Donc, on verra des marches qui ont des pas aussi étranges que 6 pouces en hauteur, par exemple, et 12 pouces en profondeur. On avait, pour les autres marches, qui sont des marches qui sont à l'intérieur même d'un logement, dans votre maison unifamiliale, les marches qui accèdent vers le sous-sol ou vers l'étage. Bref, ce sont des marches très privées à l'intérieur même d'un logement. Là, on a un peu plus de flexibilité. Et pour ces escaliers-là, traditionnellement, il y avait une espèce de règle du pouce qui disait que, du pouce et en pouce, et non pas en millimètres, bien sûr, qui disait que le produit de la hauteur par la profondeur de la marche devrait donner entre 70 et 75. Mettons que vous avez une marche de 7 pouces de haut par une profondeur de 10 pouces, ben vous aurez une marche, le produit de 7 multiplié par 10, ça va faire 70, donc on se situe entre 70 et 75. Alors, on est dans un pas qui fonctionne assez bien. Si vous avez une marche de 8-9, qui est une marche qui est plus raide, bien sûr, mais ça fonctionne bien, ça a un pas, ça donne 72, ça a un pas qui fonctionne assez bien. Et on peut aborder aussi, bien sûr, les marches d'angle, les marches des escaliers qui tournent. Alors là, il y a un calcul qui est différent pour que ce soit sécuritaire, pour que ce soit agréable. Mais de la même façon, quand on a de larges escaliers à l'extérieur, de la même façon aussi quand on a des escaliers qui tournent, si vous remarquez, c'est amusant parce que vous allez instinctivement descendre ces escaliers avec le bon angle, en choisissant le bon endroit. Par exemple, dans l'escalier hélicoïdal, selon la grandeur de vos jambes, vous allez descendre plus près ou plus loin de l'axe central pour avoir le pas qui vous convient à vous.
L'hélicoïdal, c'est celui qui donc a un poteau et il tourne autour de ce poteau-là. Quelqu'un qui monte un escalier de ce type-là va se placer d'instinct au bon endroit.
Au bon endroit selon son pas à lui. Alors, il y a ce qu'on appelle les escaliers balancés aussi, qui sont des escaliers qui tournent, comme les grands escaliers des châteaux, les grands escaliers de la Place des Arts ou de la Tour de la Bourse, tout ça. Ce sont de grands escaliers qui ont vraiment de grandes marches. Bien, là aussi, on va descendre plus au centre ou plus à l'extérieur selon le pas que nous avons. Et si on a à l'extérieur un grand escalier monumental qui a de très longues marches et que le pas ne vous convient pas à vous, bien, fort probablement que vous allez descendre l'escalier de biais et de cette façon-là, le pas va être celui qui vous convient à vous. C'est très amusant comment notre notre physionomie s'adapte sans ordinateur aucun, mais s'adapte aux escaliers qu'on a devant nous. C'est rare que la créativité va s'exercer en modifiant le pas ou en faisant des pas incongrus. Je pense que si un créateur faisait un escalier qui mène à la mezzanine dans un loft de grand luxe, si on faisait un escalier donc qui mène à cette mezzanine et qui se monte mal ou se descend mal, il n'y a pas un propriétaire de ce loft-là qui va vous trouver comique, là, mais pas du tout. Votre génie créateur va prendre le bord, ça je vous garantis. Harmonieux, fonctionnel et durable. Alors la fonctionnalité d'un escalier, là, c'est vraiment que ce soit facile à monter et à descendre. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Faut quand même parler aussi du fini. Du fini des escaliers. Imaginez un escalier hélicoïdal en bois, mais super verni, super glissant. Oh, on peut se péter à la fiole, comme ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment être conséquent avec ça, puis prendre les bons finis, les bons moyens, pour sans que ce soit antidérapant à mort, mais que ce soit un minimum raisonnable en termes de finis de marche. Depuis qu'on a changé les normes au niveau des escaliers d'issue, comme je vous le disais, les marches sont beaucoup plus amples qu'avant. Hey, ça prend beaucoup plus de place pour aménager dans un bâtiment un escalier comme ça. Donc, à une certaine époque, on n'avait pas les moyens de faire des escaliers aussi vastes que ça. De sorte que, par exemple, dans les maisons québécoises qui n'étaient pas des maisons bourgeoises, dans les petites maisons québécoises où on était 12 enfants dans un carré de 24 pieds par 24 pieds, bien, c'est bien évident que l'escalier qui menait à l'étage, il était très souvent fait avec des marches de 8-8 ou de 8-8,5 même. C'était plus que 45 degrés parce qu'il fallait que l'escalier soit compact, parce que toute la maison était compacte. Alors, imaginez quand il y avait 4 enfants qui couchaient dans une petite chambre, on n'aurait pas pensé jamais de la vie de faire un escalier qui prend la moitié de la maison pour monter au deuxième étage. Ça n'aurait pas eu de sens. De sorte que ça, c'est un exemple de situation où on faisait des escaliers vraiment plus compacts. Et tout ce qu'on appelle des échelles de Meunier, c'est la même chose. C'est à mi-chemin entre l'escalier et l'échelle, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait pas beaucoup d'espace. Intéressant aussi de se rappeler que chez les Mayas, les pyramides Mayas avaient des marches qui étaient complètement inversées, c'est-à-dire ils avaient 4 pouces de profondeur à peu près et 8 pouces de hauteur. Alors, évidemment, pour monter ces marches-là, 4, 8, on est capable de monter la pyramide assez bien. Mais avez-vous pensé que le sacrificier qui devait être amené en haut de la pyramide, si jamais il lui avait pris l'intention de se sauver, il n'aurait pas pu se sauver très rapidement parce qu'il aurait vraiment, il n'aurait peut-être pas eu le cœur arraché sur le Chacmol au sommet de la pyramide, mais il aurait probablement descendu tête bêche en bas et je suis pas sûr qu'il aurait vécu plus longtemps. Alors, c'est une façon de garder une certaine sécurité des occupants, mais pas de la façon dont on pense. Pour en avoir monté, je peux vous dire que ça se monte pas mal mieux que ça se descend. J'ai fait justement un escalier balancé où j'ai voulu m'amuser à donner un angle différent que celui plus strict auquel on aurait pu s'attendre. Et il y a une marche, dans les proportions, non pas dans les hauteurs qui sont impeccables, mais dans les dimensions, il y a une marche, la marche numéro 6, si je me rappelle encore, qui a un petit demi-pouce et à une autre époque, ça m'aurait enragé noir d'avoir une marche qui diverge de la perfection à laquelle j'aspirais. Et aujourd'hui, je la trouve très sympathique, ma marche numéro 6. Elle me reflète à chaque fois que je prends cet escalier, et Dieu sait si je la prends souvent, elle me ramène à mon imperfection d'être humain et je la remercie, ma marche numéro 6, de me rappeler ça quotidiennement. Alors, c'est même philosophique un escalier finalement.
tombe sur la ville, recouvre les automobiles, le béton, l'asphalte, les usines. On ne distingue plus que des ombres, sans couleur, ni sexe, ni visage. La neige tombe. J'avance seul, au contact de mes joues, les flocons passent du velours à la pluie. Du ciel, j'ai l'air d'un doigt glissant sur le glaçage d'un gâteau. La neige tombe. À la vue d'une sirène, je m'arrête. La neige recouvre mes jambes. La neige recouvre la queue de la sirène. Et si la neige ne cachait rien, rien qu'un gâteau coupé en parts égales. Un gâteau au chocolat, recouvert de vanille. Demain, il fera 15 degrés. Mon sang se glace à l'idée que sous la neige, il y a mes pieds, le béton, l'asphalte, la fumée, les églises, les mosquées et quelques miettes de gâteau au chocolat. Quelques miettes sucrées au Splenda.
C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. On vous remercie d'avoir été des nôtres, espérons que vous avez aimé l'émission, et on vous laisse sur cette citation de Goethe qui a écrit « Tout homme qui marche peut s'égarer ». Alors ben, faites attention, et on se revoit la semaine prochaine.
L'émission Dans le champ lexical est réalisée par Mathieu Charlebois et Joannie Larue. Cette semaine, on a marché sur les traces de l'histoire avec Chloé Barry. On n'a pas marché pantoute avec Annie Rossano. On a mis la musique en marche avec Christiane Campagna. Et on s'est planté dans les marches avec Sonny Duval. Si vous êtes fatigué de la marche, vous pouvez vous virer de bord et retourner plutôt vers toutes nos précédentes émissions à danschamplexical.com. Restez sur les ondes de CIBL, car dans quelques instants, dans vos oreilles, le DJ est une ordure.